RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, dans quelques jours, nous nous réunirons en famille pour fêter Noël, une fête chrétienne qui fait mémoire de la naissance de Jésus, reconnu par les croyants fils de Dieu dans le dénuement d'une crèche. Depuis 2000 ans, à mesure que l'évangile s'est répandu dans le monde, les croyants ont reçu, compris et célébré ce mystère de la nativité en l'intégrant à leur culture, leur langue, leur style propre. Pour paraphraser le Concile Vatican II, il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho parmi les disciples du Christ. Ce matin, dans le temps de le dire, c'est la tradition provençale que nous allons découvrir davantage. Nous avons peut-être en tête quelques éléments de la manière dont Noël est célébré en Provence à travers les fameux santons, les pastorales ou encore les 13 desserts. D'où cela vient-il? Comment ces traditions se sont-elles affirmées et continuent-elles jusqu'à aujourd'hui de se transmettre, constituant un patrimoine vivant, humain et spirituel qu'il faut non seulement mieux connaître mais aussi préserver? Réponse à ces questions et d'autres encore dans le temps de le dire sur RCF.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Avec deux invités que je vous présente sans plus tarder. Jean-Pierre Mazet, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bonjour, vous êtes conservateur du musée des arts et traditions populaires du terroir marseillais dans le quartier Château-Gombert. Avec vous également Evelyne Brémondy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de ce même musée du terroir marseillais. Vous l'avez compris, mes invités du jour vont nous parler du Noël provençal en duplex depuis RCF Dialogue à Marseille. Merci à toute l'équipe et en particulier aux techniciens qui rendent ce duplex possible. N'hésitez pas à prendre la parole pour partager les traditions de Noël de vos régions en appelant le standard à partir de 9h30 ou en nous écrivant le temps de le dire @rcf.fr.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Alors en Provence, la préparation de Noël commence dès le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe. Il y a une tradition d'ailleurs de faire pousser du blé. Pourquoi cette coutume, Jean-Pierre Mazet?
Alors cette coutume, bon, elle vient d'assez loin. Bon, certains la rattachent à un usage romain déjà, où l'on faisait ce qu'on appelait les jardins d'Adonis, c'est-à-dire qu'on met à germer dans une soucoupe ou dans un petit plat, des graines, alors diverses, de manière, au moment où la nature semble mourir, montrer qu'en fait, la vie existe toujours. Vous voyez ? Et ça, donc, ça va être conservé dans cette tradition des blés de la Sainte Barbe. On met du blé, on peut mettre des lentilles également, et on va voir si la germination se fait bien. Et si elle se fait bien, à ce moment-là, c'est un signe que l'année à venir sera bonne.
Et donc, alors ce blé qui est poussé,
sorte de près.
Ce blé qui,
oui,
qui
un
a
côté
poussé.
De prédiction, donc.
Ouais, tout à oui. fait. On le dispose ensuite dans la crèche, hein, c'est ça, Evelyne Brémondy. C'est une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Oui, alors c'est une tradition qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Il y a une variante d'ailleurs avec les lentilles, il faut le souligner. Oui. Alors on le met dans la crèche ou carrément sur la table parce qu'aujourd'hui on vend ces sachets de blé au profit d'ailleurs d'associations caritatives et notamment pour les enfants à Marseille. C'est l'opération Maggie Roubaud qui avait lancé ça. Souvent, ça apparaît désormais comme un blé porte-bonheur, comme quelque chose un peu qui presque, je dirais, a pris une forme de gris-gris. Et en réalité, comme le disait Jean-Pierre Mazet, c'est surtout un signe sur la table de prospérité, mais en même temps, on croit savoir que il s'agit surtout du symbole d'une bonne récolte de blé à l'époque qui permettrait d'envisager d'avoir de la farine et d'avoir du pain, ce qui n'était pas toujours le cas. Les intempéries, les mauvaises récoltes, le fait que ces quelques grains de blé ensemencés le jour de la Sainte Barbe, eh bien, s'il arrivait au 24 décembre à avoir poussé bien haut, bien vert, bien gaillard, comme on disait, eh bien, c'était le signe que la récolte serait forcément bonne, et qu'on aurait donc de la farine et qu'on aurait donc du pain. et ce qui était considérablement important comme signe de prospérité.
Alors on va en rester là sur le blé si vous voulez bien, parce qu'on aurait beaucoup de choses à
dire.
Bien sûr. Mais il y a tellement de symboles et c'est tellement riche ce Noël provençal que nous n'avons pas, j'allais dire, assez de temps pour évoquer tous les éléments. Donc on va poursuivre avec la crèche de Noël. À quel moment on prépare la crèche de Noël en Provence, Jean-Pierre Mazet ?
Théoriquement, il faudrait la préparer juste la veille de Noël. Mais beaucoup de gens la préparent bien à l'avance. De toute façon, il faut quand même se procurer des éléments qui sont importants. Par exemple, quand on va reconstituer un paysage provençal pour y mettre les santons, il faut aller chercher dans la colline des pierres, il faut aller chercher de la mousse. Donc ça demande un certain temps, peut-être dans la semaine qui précède Noël. On y va souvent, c'est les grands-parents qui y vont ou le grand-père qui va avec les petits-enfants, parce que ça fait un jeu en même temps, d'aller chercher cette mousse. Ensuite de quoi, on va sortir les santons qui ont été placés l'année d'avant, au début de l'année d'avant, dans leur boîte. On va installer une étable, un moulin, un paysage provençal avec donc des éléments qui correspondent aussi à ce qui est dit dans l'Évangile, c'est-à-dire donc l'étable dans laquelle le Christ va naître, qui peut être d'ailleurs une grotte aussi, enfin, on a des variations là-dessus. On prépare ça, et c'est vraiment la veille de Noël que l'on met les santons, et ensuite on y mettra dans la nuit de Noël l'enfant Jésus.
Oui, c'est ça.
Entre l'âne et le bœuf.
Voilà. Alors, peut-être il faut le préciser, santons, c'est un mot provençal, en fait. Ça vient du provençal, Évelyne Brémondi.
C'est ça.
Oui, tout à fait. Ça vient de c'est une l'origine du petit saint. En fin de compte, ces petits personnages sont nés à la suite des grandes représentations bibliques qui étaient jouées à la période de Noël. En Provence, nous avons au musée notamment les premiers santons de Jean-Louis Laniel qui a réalisé ses premières figurines qui étaient très détaillées, qui représentaient ce petit peuple provençal qui rend hommage à la nativité. Et ça s'est multiplié évidemment avec des variantes, parce que la crèche est devenue quelque chose, c'est un acte de piété en même temps. Au moment de Noël, c'est tout le petit peuple provençal qui rend hommage à la nativité. Et mais peut-être Jean-Pierre va ajouter quelque chose.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que la crèche est arrivée en Provence, en fait, dans le cadre de la contre-réforme.
Absolument.
Par les oratoriens. Et quand les oratoriens se sont installés en Provence, et ils ont apporté donc ce culte de l'enfant Jésus, ce culte de l'enfance du Christ, et ils ont créé les premières crèches dans les églises.
Donc 17e siècle, c'est ça ?
Grands. Voilà, au 17e siècle.
Absolument.
Avec des santons qui étaient grands, d'ailleurs, qui pouvaient être des statues en bois, ou bien qui pouvaient être des mannequins avec des visages et des mains de cire et des mannequins habillés. Et les crèches étaient essentiellement dans les églises. La crèche familiale que l'on fait à la maison apparaît seulement à la fin du XVIIIe siècle. Voyez, et d'ailleurs, c'est une création marseillaise. Ça apparaît à Marseille et ensuite ça va se répandre dans toute la Provence.
Et dans toute la France Mistral. Aussi.
Et après, dans toute la France.
Ah,
mais de toute façon, on trouve des crèches partout. Et l'origine de la crèche, par exemple, à Naples, ou en Bavière, ou en Pologne, elle est différente. Il faudrait étudier plus en détail la façon dont elle est apparue dans ces régions-là. Mais en Provence, donc, c'est depuis Marseille que la crèche provençale apparaît et elle va se répandre. Frédéric Mistral, le monde a entendu parler quand
bien
même
sûr.
De lui, qui est à la fois un poète, un écrivain, prix Nobel de littérature, mais en même temps un ethnologue ou un ethnographe raconte dans ses mémoires que dans son enfance, la crèche était seulement à l'église de Mayenne. Il n'y avait pas de crèche dans sa maison. Or, c'était vers 1840 à peu près. Donc ça veut dire que la crèche marseillaise n'était pas encore arrivée même dans le reste de la Provence. Vous voyez, il y a quand même une espèce de tache d'huile qui se fait à partir de Marseille et qui se répand.
Donc c'est relativement récent, finalement.
Alors, donc finalement...
Les crèches à domicile.
Voilà, les crèches à domicile, c'est récent, enfin, ça a 200 ans, quoi, voilà, grosso modo.
Alors, comment
la première crèche, d'ailleurs, en Provence, je vous coupe, on la retrouve aussi avec des santons qui sont conservés à l'église de Mimé, qui est un petit village à côté de Marseille, sur l'ermitage de Notre-Dame-des-Anges, qui a été l'une des premières crèches dans une chapelle à Notre-Dame-des-Anges, qui se situe sur les collines sur le haut des collines de Marseille.
Alors, il y a aussi la tradition des foires aux santons en Provence. C'est le cas dans pas mal de villes, un petit peu partout dans la région. J'ai envie de vous poser une question qui peut vous paraître un peu banale, mais qui est essentielle à mon sens. Comment on peut reconnaître un vrai santon provençal? Parce qu'il y a quand même, avons-le, pas mal de contrefaçons.
C'est vrai. Sauf que, en tout cas, à Marseille, il y a une association des santonniers qui veille désormais à l'authenticité du santon provençal, qu'il soit d'argile cuite ou d'argile et puis santon habillé. L'association des santonniers marseillais, en tout cas, veille de façon, je dirais, très scrupuleuse à ce que sur le marché de la foire aux santons, du marché traditionnel, soit authentique et fabriqué à Marseille. C'est fini cette époque où on avait un peu tout et n'importe quoi. Alors après, dans les commerces, dans les supermarchés, on peut trouver une provenance qui vient d'Asie ou d'Orient. Mais en tout cas, sur le marché traditionnel, marché de Marseille, on trouve de vraies figurines fabriquées à Marseille.
Alors, qu'est-ce que vous pourriez ajouter, Jean-Pierre Mazet, sur les critères qui authentifient les vrais santons provençaux et peut-être au-delà de ces foires aux santons? Ça, c'est une tradition qui remonte loin en Provence?
La foire aux santons de Marseille date du début du 19e siècle. Et à l'époque...
1903,
donc, le consulat ou le début de l'Empire. Hein. Voilà. Et donc, le santon, à l'époque, il est tiré avec des moules, il est tiré en argile crue, et ensuite il est peint. Et les figurines ont des costumes de l'époque, donc de la première moitié du 19e siècle, vous voyez.
C'est-à-dire avec des chapeaux caractéristiques, des vêtements.
Oui, même ancien régime. Voilà. On peut dire les Jean-Louis Laniel, c'est ancien régime.
Oui, parce qu'ils sont un peu plus anciens. Enfin voilà, ce sont des costumes donc, de la charnière 18e, 19e. Et après, on va voir se développer des santons. Par exemple, on va rajouter dans la crèche le maire. Alors le maire, lui, on lui met une écharpe tricolore, vous voyez. Mm-hmm. Donc on va avoir quelque chose qui est un peu plus...
Oui, c'est très évolutif.
Un peu plus moderne. Le chasseur, on lui donne la tête de Mistral avec sa petite barbiche et sa moustache. Voilà.
On a eu l'année dernière, dans l'actualité, des santonniers, quelques santonniers sur la foire qui ont carrément fait le santon des gilets jaunes.
D'accord, donc...
c'est très clin d'œil, après il y a un peu tout et n'importe quoi.
C'est vrai
aussi.
Ils prennent en compte les évolutions.
Oui, ils prennent en compte un peu les évolutions.
Mais enfin, bon, le santon, si on veut, le santon traditionnel, il doit avoir un costume, disons, du début du 19e siècle. Hein. Un costume de paysan ou de paysanne endimanché, puisqu'on va avoir l'enfant Jésus, donc on s'est mis quand même sur son 31. D'ailleurs, il y a une Noël qui dit « Où allez-vous, madame, si bien vêtue ? Je vais à la crèche voir l'enfant Jésus. » Voilà, c'est en provençal, mais enfin, le texte du Noël dit ceci.
Et vous le connaissez
Après,
en provençal ?
Aussi les santons habillés.
Vous le connaissez, ce texte,
oui,
en provençal ? Non, peut-être
Utanas
pas.
Utanas tamer topoulide, qui moussias tamer alestide, etc. Enfin, voilà.
Voilà, alors, puisque vous parlez.
Même vent au Bélin.
Ouais, puisque vous parlez provençal, on va écouter un Noël traditionnel en langue provençale. Et on se retrouve tout de suite après dans cette émission en direct sur RCF. Et je vous le rappelle, vous qui nous écoutez, vous pourrez intervenir à partir de 9h30.
Gabriel, le loup pour ta la gare, qui est déjà d'ouvrage.
C'était un chant de Noël provençal, Bel Ange Gabriel sur RCF.
RCF, le temps de le dire.
Grâce à mes invités Jean-Pierre Mazet et Evelyne Brémondy, respectivement conservateurs et directrices du musée du terroir marseillais, nous découvrons les rites et les coutumes caractéristiques du Noël provençal, un patrimoine vivant, riche de sens et d'histoire. J'aimerais en savoir plus sur ce qu'on appelle le gros souper de Noël. Alors de quoi s'agit-il précisément, Jean-Pierre Mazet ?
Bien, bon, il s'agit du repas qui se fait la veille de Noël, le soir. Alors c'est un souper, puisqu'en Provence, on utilise ce mot plutôt que le mot parisien de dîner. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu tout avant les quatre semaines de l'Avent. Et donc, on a fait, jeûne et abstinence. Le jour de la veille de Noël est encore un jour de jeûne et abstinence dans la tradition. Enfin,
c'est un petit carême.
Disons, je dirais, voilà, avant le concile, quoi, puisque maintenant on est un peu plus libéral là-dessus. Et donc, ce soir-là, on va faire un repas important par rapport aux autres repas. Et donc, c'est un repas qui quand même est maigre. Il n'y a pas de viande.
Il y a sept plats maigres
au jour de Noël. Alors donc, il y a sept plats, dit la tradition, en l'honneur des sept douleurs de la Vierge. Notre-Dame des Sept Douleurs, bon, c'est une fête d'ailleurs qui se trouve, je crois, au mois de septembre. Et donc, dans ces plats, on va manger uniquement des légumes, du poisson, puisque le poisson est considéré comme plat maigre, hein, il n'y a pas de chair, de viande, en quelque sorte. Éventuellement, on va avoir des escargots, parce que c'est considéré aussi comme autre chose que de la viande. Donc des œufs également. Voilà. Et on va faire donc ces plats avec ces ingrédients-là. Alors on peut citer par exemple des plats comme celui que je fais d'ailleurs, les épinards aux sardines.
Donc on fait... Parce qu'il y a des légumes de saison,
voilà.
D'hiver.
Alors bien sûr, il faut que ce soit des légumes de saison. Donc on fait un plat d'épinards, c'est-à-dire comme pour faire un gratin d'épinards, et puis on met à l'intérieur des sardines qu'on a nettoyées, bien sûr, et surtout dont on a levé l'arête principale, et on les met à cuire dans les épinards au four. Vous voyez, c'est un plat qui est excellent, mais c'est un plat qui est considéré comme un plat de...
De pénitence, finalement.
De carême. Mais voilà, un plat de pénitence. Mais enfin, bon, c'est une pénitence qu'on ferait...
Amélioré, quand même. Hein.
Voilà. Alors, donc, ce repas s'appelle donc gros souper, parce que, bon, il est gros, il est important. Et on le fait avant d'aller à la messe de minuit. Alors, ça, évidemment, c'est une tradition ancienne qui n'est pas forcément observée maintenant. Hein. Voilà, il y a peu, oui. Je pense, peu de familles où on le fait encore comme ça.
Alors, pourquoi, quand même, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ces sept plats maigres, si j'ai bien compris en préparant cette émission, sont servis avec 13 petits pains suivis de 13 desserts ?
Alors, les 13 petits pains, ça s'est signalé déjà au XVIIe siècle. Il y a un livre qui a été fait par un prêtre oratorien, d'ailleurs, qui s'appelait Marchetti, au XVIIe siècle. Il s'appelle, en fait, le livre s'appelle « Description des usages des Marseillais ». Et il parle déjà de, en fait, 13 pains sur la table de Noël, un plus gros et 12 plus petits, qui représentent, en fait, le Christ et les 12 apôtres, vous voyez.
Donc, y compris donc, avec Judas, puisque Judas était présent lors
de
la scène.
Oui, mais au moment de la scène, Judas y était déjà, enfin, y était encore plus exactement, mais le Christ dit « De vous me trahira celui qui a mis la main dans le plat en même temps que moi voilà. ». Bon, donc on va avoir ces 13 pains. Donc, dès le XVIIe siècle, ça s'est manifesté. Et ensuite, donc, on va avoir les 13 desserts. Mais je pense qu'Evelyne Brémondi peut vous développer un peu plus cette question.
Oui, allez. Evelyne, allez-y.
Toute la famille part assister à la messe de minuit. Et puis, on revient, on se remet à table et on a donc ces 13 desserts avec cette symbolique importante donc des 12 apôtres et du Christ. Alors, pas de polémique sur cette liste de desserts.
Pourquoi pas de polémique?
Souvent, on nous appelle, voilà, ouais, parce que souvent, oui, ça y est pas, mais non, bon, non. Ce qui est important, évidemment, c'est le nombre 13. Et puis, on a donc 5 desserts, je dirais, qui sont d'importance. La pompe à l'huile ou le gibassier. Parce que selon, on va dire, la localité, le terme diffère. Et puis ça diffère aussi un petit peu, on va le dire, au niveau de la... Pardon,
Jean-Pierre. Oui, parce que la pompe à l'huile, elle est levée. Tandis que le gibassier, il n'est pas levé, il est plat. Et il va être un peu plus, comment dire, un peu plus sablé.
Alors c'est quoi, la pompe à huile?
Alors, donc, si vous voulez, ça a la consistance d'une brioche. En fait, vous faites... Une pompe, au lieu de mettre de l'eau, vous mettez de l'huile quand vous faites votre pâte.
Et de la fleur d'oranger.
Alors on peut rajouter de la fleur d'oranger, encore que mon père qui était pâtissier dit « n'en mettez pas ». Mais voilà, donc on fait une brioche, comme une brioche, mais avec donc de l'huile à la place de l'eau. Et on la laisse lever, puisqu'il y a du levain bien sûr dedans, on la laisse lever. Ensuite on en fait une sorte de galette dans laquelle on fait des incisions, de manière à ce que quand elle sera cuite, elle ressemble quelque sorte à une roue, si vous voulez. Voilà, imaginez une espèce de roue qui donc est assez briochée. Ça, c'est la pompe. Et par contre, le gibassier, c'est plus plat parce que ça n'est pas levé.
D'accord.
Et on l'appelle gibassier parce que malgré tout, à la cuisson, il y a des bosses qui se font. Et en provençal, une bosse s'appelle une gibe. Voilà, une gibe. On parle de la lune gibeuse, ça veut dire quand la lune n'est pas complètement pleine, on voit une bosse. Alors c'est le même mot, si vous voulez.
Mais qu'est-ce que ça symbolise, relié à la fête chrétienne de Noël, Evelyne Brémondi?
Ça symbolise tout simplement la pâtisserie et ça symbolise le Christ. Après, vous avez ce qu'on appelle les mendiants. Avec les fruits secs qui symbolisent les 4 heures de mendiant, les franciscains, les dominicains, les augustins et les carmes. Alors là, on a les noix, les noisettes, les amandes, les raisins secs et les figues sèches. Alors ça, c'est 5 desserts plus la pompe, pardon.
Oui, c'est 5, alors qu'on dit les 4 mendiants.
Oui, souvent on dit, moi je dis, on vise commenter.
Non, mais on dit les 4 mendiants, ils sont 5.
Voilà, c'est un peu comme l'histoire des 3 mousquetaires. Voilà, comme les 3 mousquetaires qui étaient 4, exactement. Voilà, et après, on mettait un petit peu ce que l'on avait. Alors évidemment, les fruits de saison, les pommes, les poires. À Marseille, on a le melon vert qu'on arrivait à conserver sur des paillets jusqu'à la Noël, bien frais. Nous avons aussi la panse de raisin muscat qu'on arrivait également à conserver soit dans des tiens en coche, de manière que nous avons d'ailleurs au musée, qui sont des curiosités, c'est-à-dire des plats de terre cuite réalisés avec des encoches qui permettaient de coincer, d'accrocher le sarment de la tige de la grappe de la panse de raisin. Et puis donc le nougat blanc, le nougat noir, je ne sais plus à combien sommes-nous de la liste, mais en tout cas, nous par exemple à Château-Gombert, pour arriver au 13e dessert, on allait dans la colline cueillir ce qu'on appelle des sorbes. C'est une petite pomme sauvage, c'est assez âpre. C'est pas très bon, il faut bien le dire. Mais en tout cas, sur la table figée, je dirais, des 13 desserts à Château-Gombert, on retrouve cette assiette de petites pommes de sorbe. Oui. C'est évident que sur le Vieux-Port à Marseille, on avait la chance d'avoir les navires qui débarquaient les produits d'Afrique du Nord. Donc oui, on pouvait y remplacer ça par des dates, des oranges, des mandarines qui arrivaient aussi, ou des clémentines qui arrivaient aussi par bateau. C'était un peu une variante. Sur Aix, on avait certainement, et sûrement d'ailleurs, des calissons. Sur Cavaillon, on avait les fruits confits.
On s'adapte en fonction
de ce qu'il y a. Alors, pourvu qu'il y ait cette symbolique des 13 desserts.
Et est-ce que c'est respecté encore aujourd'hui sur les tables des familles provençales?
Oui. Oui, je dirais oui parce que, vous savez, nous avons la proximité à Château-Gombert du Technopole de Château-Gombert, qui est une zone, on va dire, high-tech, avec des tas de chercheurs qui sont venus s'installer sur le site. Et souvent, des gens qui ont eu envie de déposer leurs valises et d'habiter Marseille, Château-Gombert, et qui ont envie de se rattacher à quelque chose, et notamment aux traditions. Alors, pour autant, c'est vrai que le gros souper, bon, c'est pas évident que ce soit vraiment respecté. Mais les 13 desserts, oui, parce que ça permet de se rattacher à quelque chose. Et souvent, on nous appelle ou on vient visiter le musée, on vient récupérer une carte postale de la table des 13 desserts pour pouvoir au moins se rattacher à cette tradition-là qui, pour certains, a vraiment une symbolique rattachée au pourquoi de la fête, parce que souvent on oublie que Noël, c'est quand même une naissance qui n'est pas des moindres.
Oui, c'est ça. Alors il nous reste une petite
minute.
C'est
pas la fête de la bouffe et des cadeaux, comme je dis souvent dans les visites commentées, parce qu'on a toujours cette question-là qui revient. On vient visiter le musée quelquefois. Bon, on n'a pas cette dimension religieuse et c'est un peu dommage.
Alors il nous reste quelques secondes avant de faire une nouvelle pause musicale, rassurez-vous, il nous reste encore une demi-heure avant la fin de cette émission. J'aimerais juste un mot sur la façon dont la table est disposée. Il y a, je crois, un nombre de nappes précis, de chandeliers. C'est pas laissé au hasard,
absolument.
Jean-Pierre Mazet, Evelyne Brémondy?
Oui. Allez-y, non, c'est pareil.
Oui, alors sur la table, on met 3 nappes. Ça, c'est une référence à la fois à la Trinité, une pour le Père, une pour le Fils, une pour le Saint-Esprit. Mais c'est aussi une référence liturgique, puisque sur l'autel, on doit mettre normalement 3 nappes. Et puis, il y a le corporal, etc. Voilà. Donc, on a une référence liturgique aussi. Ces nappes, bon, la troisième, c'est-à-dire celle qui est sur le dessus, en général, on va faire un nœud aux angles de manière à faire des cordes. Alors là, on a un souvenir de ce qu'on en avait sur les autels antiques déjà à l'époque du paganisme, c'est-à-dire que ces cordes sont destinées à chasser les mauvais esprits. On va mettre également sur la nappe, sur la table plutôt, 3 chandelles, toujours par référence à la Trinité, bien entendu. Ces chandelles, si elles brillent bien quand elles sont allumées, eh bien, sera un signe aussi que l'année qui va venir sera une bonne année. Et donc, il y a aussi un côté de prédiction, un côté propitiatoire, on pourrait dire, comme dans le blé. Voyez. Et en plus, alors, il y avait une croyance qui est un peu de superstition. Vous savez, quand une chandelle brûle, en général, la mèche se tord un peu, elle se courbe.
Oui.
Et on pensait que si elle se courbait vers une personne, c'était le signe que cette personne ne serait pas là l'année d'après.
Ah.
Ne serait plus là l'année d'après.
Effectivement.
Voilà, Mistral le rapporte, ça. Voilà, il dit c'est celui qui... Et ça aura des manques, celui qui manquera l'année suivante. Alors, je ne sais pas si on faisait attention de tourner le chandelier pour qu'il ne vienne pas dans votre direction, évidemment.
Allez, comme promis, je vous propose une nouvelle pause dans cette émission. On se retrouve après pour continuer d'explorer les traditions du Noël provençal. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant.
La boutique RCF vous propose le tout nouvel agenda RCF 2020. Conçu par RCF et Covadis, il organisera vos rendez-vous de décembre à décembre avec une double page par semaine. Il contient le calendrier des principales fêtes chrétiennes, le saint du jour, la liste des fréquences RCF et une carte du monde pour 10,50€ seulement. Pour plus de renseignements et commander votre agenda RCF 2020, appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10. Prix hors livraison.
Les injustices, la faim dans le monde. Et si on passait du « faudrait que ça change » à « je peux tout changer » ? On est des milliers à se sentir concernés. Partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions durables pour soutenir l'agriculture paysanne et vivre dignement. Avec le CCF des Terres Solidaires, agissons sur les causes de la faim, soutenons les projets de ceux qui veulent changer leur vie. Faites un don sur ccfd-terresolidaires.org. Soyons les forces du changement.
Avec RCF, vivez un Noël apaisé. Pour prendre le temps de préparer Noël dans un climat de paix, découvrez 2 podcasts exclusifs, Halte spirituelle spécial Avent et Les aventures de Noël. Pour les écouter et vous abonner gratuitement, rendez-vous sur rcf.fr ou sur l'application RCF. Avec les podcasts de l'Avent, vivez un Noël apaisé sur RCF.
À quelques jours de la fête de Noël, nous nous intéressons ce matin, dans le temps de le dire, sur RCF à la tradition provençale grâce à l'expertise de mes deux invités, Jean-Pierre Mazet, conservateur du Musée des Arts et Traditions Populaires du Terroir Marseillais dans le quartier Château Gombert, et Evelyne Brémondy, sa directrice. J'aimerais qu'on parle des fameuses pastorales. Comment les présenter? Quelle forme prennent-elles? Evelyne Brémondy ou Jean-Pierre Mazet?
Non, je vais laisser, mais je voudrais revenir sur un petit aspect des choses sur la table des 13 desserts pour continuer quelque chose qui me paraît intéressant dans les traditions. La cérémonie de la bûche qui va expliquer aux auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'origine de cette tradition. Ce rite qui me paraît important, on a cette pâtisserie, cette pompe à l'huile ou ce gibassier qui sert de pâtisserie sur le parmi les desserts. Il faut savoir qu'il y a quand même une tradition un rite qui se fait avant de se mettre à table, qui me paraît important, c'est la cérémonie du catch au fouet avec la bûche de Noël, qui est la vraie bûche de bois. Une bûche d'arbre fruitier de préférence, avec cette symbolique de l'arbre qui renaît, qui va être cérémonieusement déposée dans la cheminée et qui, par le grand-père, qui symbolise le passé, et le plus jeune des petits-enfants de la famille, qui symbolise l'avenir. Et cérémonieusement, le grand-père, avant de se mettre à table, arrivé à 5 jours de la fin de l'année, va prononcer les vœux pour toute la famille avec cette année qui va venir. Donc il y a un rite qui se fait avec le petit enfant qui tient un verre de vin cuit, qu'il va passer au grand-père et qui va procéder à une libation, à la bénédiction de la bûche, en présentant les vœux à toute la famille avant de se mettre à table. Alors je laisse à Jean-Pierre, qui est professeur en plus de provençal, le dire mieux que moi en provençal, et on va en faire la traduction. Et c'est une tradition donc qui s'est perdue dans la mesure où on n'a plus besoin de cheminée ni pour se chauffer ni pour cuisiner, et que les pâtissiers ont récupéré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui pâtisserie s'est substituée à la pompe à l'huile et qui est devenue une bûche pâtissière glacière sous forme de pâtisserie qu'on retrouve dans toutes les boulangeries de France et de Navarre et d'ailleurs.
Et Jean-Pierre Mazet,
l'origine de cette
Jean-Pierre Mazet, avant qu'on vous entende en provençal, est-ce que cette tradition là vous l'avez déjà effectuée, vous avez déjà prononcé des vœux?
Je l'ai, oui. Enfin, je l'ai effectué, mais comme une reconstitution.
Ah d'accord. Parce que donc ça se fait plus vraiment dans les familles.
Voilà, cette tradition s'est perdue.
Enfin, pour ceux qui ont une cheminée, oui.
Voilà, mais enfin, elle s'est quand même perdue grandement parce que la plupart des gens en ville en particulier n'avaient pas une cheminée suffisamment grande pour effectuer cette cérémonie. Parce qu'en fait, il faut avoir un beau morceau d'arbre fruitier qui va brûler longtemps. Normalement coupé dans l'année, on le décore avec des rubans et également du petit houx, qu'on appelle en provençal le ver bruissé. Ensuite, le grand-père, en versant le vin cuit sur la bûche, dit « Allègre, allègre, dieu-nous allègre, calène de vin, tout ben vin, dieu-nous va fague la grâce, et des vins, et l'anque et vin, et c'est siam pas bain, et fugue pas bain. » Je traduis « Joie, joie, Dieu nous donne la joie, Noël vient, tout bien vient, Dieu nous fasse la grâce de voir l'année qui vient, et si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. » Et souvent, les gens ont gardé simplement « Allant que vint, c'est siam pas mal, que fugim pas mal, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. » Mistral ajoute quelque chose qu'il entendait chez lui, « Que ma fête ben agnelle, que ma vaque ben vedelle, que ma treuille ben pousselle, que mi chat et mi nor infante tout y ben. » Je traduis parce que c'est un peu abusant, mais c'est un peu machiste en même temps, j'allais dire, puisqu'il dit que ma brebis agnelle bien, que ma vache vêle bien, que ma truie fasse bien les pourceaux, et que mes filles et mes belles filles enfantent toutes bien. Ils sont passés après le bétail.
En effet. Alors, comme promis et comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, j'aimerais qu'on parle des fameuses pastorales. Alors c'est quoi? C'est les pièces théâtrales et musicales, c'est ça, Evelyne Brémondy?
Oui, alors c'est une tradition de qui se fait. On en dénombre une cinquantaine. Une centaine, oui. Enfin, alors, les plus connus sont évidemment la pastorale Morel, la pastorale Audibert, qui se sont jouées et qui se jouent encore dans certains quartiers de Marseille. Et c'est tout simplement une mise en scène du mystère de la nativité avec le petit peuple provençal qui vient rendre hommage à cette nativité. Alors, c'est une pièce en 5 actes. On n'en joue généralement que 4 parce que l'acte des rois est très long. C'est déjà une pièce qui dure 3 heures.
Oui.
C'est tout en provençal avec des personnages. D'ailleurs, Jean-Pierre Mazet l'a joué très longtemps.
Quel personnage avez-vous fait, Jean-Pierre Mazet ?
Oh là là, moi j'ai fait beaucoup de personnages. J'ai fait le personnage surtout du propriétaire de la ferme. Et ensuite, j'ai fait le rémouleur, j'ai fait le bohémien. Alors, en fait, bon, il faut savoir que on a un peu les on va retrouver dans les personnages de la crèche, c'est-à-dire les centaures. Et d'ailleurs, il va y avoir une influence réciproque de la crèche sur la pastorale et de la pastorale sur la crèche. C'est-à-dire qu'un personnage qui a eu du succès dans la pastorale, parce qu'il, par exemple, il a fait rire, il a amusé, on va le retrouver sous forme de centaure. Et inversement, des personnages qu'on a déjà dans la crèche, comme par exemple le bohémien, qui est un peu le symbole du mal, on va le retrouver dans la pastorale, vous voyez.
Et on pourrait dire quand même que... Jean-Pierre Mazet, on pourrait dire quand même que le ton de ces pièces théâtrales est largement divertissant et comique, hein.
Oui. En fait, c'est une pièce qui est très populaire, justement, à cause de ça. D'abord, bon, l'origine de ces pastorales, on peut le retrouver dans des célébrations qui se faisaient dans les collèges à la fin du XVIIIe siècle. On a par exemple la pastorale de l'abbé Taubert. C'était dans les collèges où on faisait représenter la nativité, mais alors de façon sérieuse, vous voyez, par les élèves du collège. On a des textes qui sont des textes religieux, en fait, voilà. Et après, c'est passé dans le populaire, à la fois à travers donc ces pastorales qu'on a développées, ces pastorales religieuses qu'on a développées, mais aussi il y avait ce qu'on appelait les crèches mécaniques, qui étaient en fait des espèces de théâtre de marionnettes qui représentaient aussi la nativité. Et donc après, on a mis des personnages vivants. Et ces pièces sont en fait construites un peu sur le plan de ce qu'on appelait les vaudevilles à l'époque, c'est-à-dire dans la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire une pièce en vers alternant des parties chantées. Ce n'est pas comme une opérette, parce que les parties chantées ne sont pas développées. Mais si vous voulez, voilà, vous avez des vers, un texte en vers, et puis vous avez des parties chantées, accompagnées au piano, au petit orchestre. Voilà, ça, cette forme-là. Et c'est vrai que dans la pastorale Morel, qui est la plus connue, la plus célèbre, il y a pas mal de scènes très comiques.
Et il n'y a pas eu d'hostilité de l'Église vis-à-vis de ces pièces théâtrales, à cause de ce ton comique ?
Non, parce que justement, alors je vais vous dire, la pastorale Morel a été créée par le cercle catholique de la paroisse Notre-Dame du Mont à Marseille. Et c'était l'abbé Julien qui était un des vicaires de cette paroisse qui a, je dirais, lancé cette pastorale. D'ailleurs, longtemps, au lieu de l'appeler pastorale Morel, c'est Morel qui est le vrai auteur, on disait la pastorale de l'abbé Julien. Donc, c'était un cercle ouvrier qui jouait cette pastorale. Vous voyez, donc, il n'y avait pas d'opposition. Peut-être que s'il y avait des choses un peu exagérées, ça faisait un peu... froncer les sourcils, mais je ne passe pas dans la pastorale Morel, il y a quand même pas de choses qui soient licencieuses ou autre.
Non, ça n'a jamais tourné au grivois.
Voilà, il y a des scènes comiques avec des personnages comiques. Il y a une scène d'auberge dans le troisième acte où ils sont un peu ivres, d'accord, mais ça reste quand même très, je dirais, dans le registre de la correction.
Oui, le but c'était quoi, Evelyne Brémondy, finalement, c'est d'édifier un peu le peuple.
C'était tout simplement de faire connaître à travers une pièce de théâtre, donc de façon, on va dire, ludique, tout simplement le mystère de la nativité. On a mené Et puis cette notion dans cette pastorale, on a cette notion du bien et du mal pour chaque personnage qui se retrouve à rendre hommage à la nativité, à la fin de, du dernier acte, avec tous ceux qui ont présenté leurs défauts à travers la, la pièce, se retrouvent tous transformés. L'avare devient généreux, le bêta devient intelligent, la femme, le personnage qui était souvent d'ailleurs joué par, par un homme, on va dire la, le personnage de l'épouse du maire, qui oui. était très acariâtre, devient très gentil, l'aveugle retrouve la vue, le bohémien aussi se repentit, parce que dans la pièce, il a enlevé le fils de aîné de l'aveugle et il rend le fils donc au personnage qui joue l'aveugle. Enfin, tout finit bien parce que cette représentation du dieu fait homme qui est là et qui va transformer tout le monde par le bien.
Oui.
Et ça, c'est très important. Et c'était communiqué à travers ce petit peuple provençal avec beaucoup d'humilité. Cette histoire à travers cette pièce et qui était très appréciée parce que bon en plus ça finit bien quoi.
Oui, oui, et puis en fait c'est un message de conversion.
C'est un message de conversion, voilà. Absolu.
Alors ça nous amène à parler aussi de la messe de minuit, comment elle se vit en Provence et quid, j'allais dire, du rituel du pastrage, je sais pas si je prononce bien. Ce
oui,
moment
oui,
de l'offrande au moment de l'offrande, il y a un petit agneau de lait qui est présenté à l'autel, ça se poursuit cette tradition?
Oui, alors dans pas mal de communes, vous avez tout simplement les groupes folkloriques du quartier qui se mobilisent pour cette messe de minuit. Alors en costume, représentant les santons, tous apportent une offrande. Et il y a ce qu'on appelle cette cérémonie des offrandes. Alors vous avez bien sûr le berger avec qui offre l'agneau, et il y a tout un défilé devant la nativité qui est représentée dans le cœur de l'église. Alors des vœux en provençal ou en français qui viennent devant cette nativité représentée apporter le présent à l'enfant Jésus. Alors, pardon, oui.
Oui, juste un mot pour dire que vous avez bien prononcé le pastrage,
oui, parce
qu'en fait, pastrage, ça vient de pastre, et le pastre, c'est le berger. Le pâtre, en fait, en français, oui, donc c'est le même mot. Et donc, essentiellement, il y a les bergers. Mais après, on a rajouté, donc, effectivement, une poissonnière, une marchande de légumes, une marchande de brousse, enfin, tous les personnages qu'on retrouve dans la crèche. Et un peu qu'on retrouve dans la pastorale.
Et ça se fait pendant la messe, hein, c'est ça?
Alors ça se fait en général avant la messe. Ça pourrait se faire à l'offertoire, pourquoi pas, mais en général ça se fait plutôt avant la messe. Suivant les paroisses, vous avez une veillée qui est un peu plus paraliturgique, je dirais. Et puis après, donc, vous avez cette célébration du pastrage. Et puis après, vous avez la messe. Donc la messe de minuit, la messe de Noël.
Et il y a des rites en particulier cette messe de minuit propre à la tradition provençale, Evelyne Brémondi, Jean-Pierre Mazet?
Maintenant, avec la réforme de la liturgie, donc, c'est plutôt la messe conciliaire. Mais à Château-Gombert, nous avons une particularité, c'est que nous avons en fait une messe chantée qui a été écrite par un vicaire de la paroisse il y a 80 ans, ou je ne sais plus, peut-être plus, et qui est écrite sur des airs de Noël. Donc, en fait, c'est une messe en latin, bien sûr, Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus, mais écrite sur des airs de Noël, des Noëls de Saboli ou d'autres auteurs. Vous voyez ? Alors, donc, cette messe, on la chante encore, bien qu'elle soit en latin.
Alors,
c'est la chorale
amène...
du groupe folklorique.
Ah oui. Avant de poursuivre, ça nous amène à entendre un nouveau chant provençal de Noël. On se retrouve dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous écrire pour nous faire part aussi de vos traditions de Noël respectives dans vos régions.
San José nos conseille de
Ah, la bonne nouvelle, oh, c'était un chant de Noël provençal. Et puis j'ajoute ce message de Paul de Bruxelles, ce serait bien de revenir aux crèches vivantes et remettre au sein de la messe de minuit des chants traditionnels ou folkloriques que tous connaissent. Et cela ferait du monde pour remplir à nouveau les églises, et pas seulement en Provence, nous dit-il.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Depuis 9h ce matin, dans le temps de le dire sur RCF, nous découvrons avec émerveillement les traditions de Noël de Provence, des traditions transmises depuis des siècles par des hommes et des femmes passionnés, comme c'est le cas de mes invités Jean-Pierre Mazet et Evelyne Brémondy du Musée du terroir marseillais. Alors comment justement ce patrimoine est-il mis à l'honneur, Evelyne Brémondy, au Musée du terroir marseillais ?
Alors, s'il y a bien un lieu à Marseille où les traditions sont mises à l'honneur, c'est bien au musée, avec d'abord cette mise en scène de la table des 13 desserts qui fait partie des collections permanentes dans un cadre absolument exceptionnel. Depuis 1930, le musée a été inauguré en 1928. Jean-Baptiste Julien Pignol, le fondateur, a figé cette table en décembre 1930, et c'est de là d'ailleurs qu'elle s'est répandue comme la poudre de partout, et bien au au-delà de nos frontières provençales. C'est aussi une collection fabuleuse de crèches et de santons. Je n'ai pas de scrupule à dire que c'est la plus belle collection de crèches et de santons du département et de la région, puisque ce sont mes collègues de la DRAC qui le prétendent, ainsi que notre conseil scientifique d'ailleurs. Et c'est vraiment un lieu privilégié pour retrouver les traditions d'une manière générale provençale. Et c'est d'ailleurs le seul musée provençal de Marseille où l'on trouve sur à peu près un peu plus de 1000 mètres carrés des collections qui ont trait à se passer à Marseille du 18e au 19e, et notamment et plus précisément dans le terroir marseillais, à travers du mobilier, à travers des faïences, des mises en scène, des costumes, des tas de petits objets qui sont les témoins, passeurs de mémoire de ce passé, et qui sont de plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de plus en plus prisés, parce que la singularité justement de ce musée, c'est qu'il a gardé une âme, un caractère finalement assez vieillot, avec une multitude de choses présentées en même temps, et que l'on n'en voit plus finalement ailleurs, puisqu'on a cette politique de montrer ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire, alors que là, c'est un empilement d'objets, mais qui finalement permet d'y revenir pour enfin avoir tout vu.
Oui.
Et on s'emploie à conserver cet aspect du musée dans un musée, puisqu'il est né du musée de Frédéric Mistral, donc de ce fameux musée art latin, inauguré en 1909. Et notre musée est né de cette initiative de Mistral, qui avait déclaré, lorsqu'il a créé le premier musée d'art et tradition populaire en France, qu'il fallait désormais, à une époque où on uniformisait un peu la France et où on laissait perdre les identités régionales, qu'il y ait des gens qui, comme lui, bâtissent des temples pour abriter les souvenirs du passé.
Oui, parce
et
que
notre
ce qui
fondateur
est intéressant...
à Château-Gombert... Oui. Voilà, a créé ce deuxième musée d'ethnographie provençale.
Ce qui est intéressant, Jean-Pierre Mazet...
Et nous avons la chance de le maintenir et de le préserver, ouais, et de le conserver.
Ce qui est intéressant de souligner, c'est conserver, enfin en tout cas c'est la philosophie du musée, j'ai l'impression, conserver pour transmettre, Jean-Pierre Mazet.
Oui.
Ah oui, mais c'est essentiel, bien sûr, sinon ça ne servirait à rien de conserver. On n'a pas besoin d'être un frigo, hein. Non, on essaie justement de toutes les manières de faire connaître cette culture, de la conserver et de la transmettre, voilà.
Et à travers des manifestations, fait, notamment organisées par une association ralliée au musée, attachée au musée, c'est ça ?
C'est ça, en fait, bon, il faut savoir que le musée appartient à une association, c'est un musée associatif, il n'appartient pas, c'est pas un musée municipal, et il a été donné par le fondateur. En 1950, il a donné à l'association les bâtiments et les collections. Et nous continuons dans son œuvre. Et le but, c'était en fait qu'il y ait à la fois cette conservation et cette transmission vis-à-vis des jeunes. Et en fait, toute la politique de l'association, c'est ça. Parce que finalement, nous avons toujours cherché, par des partenariats avec l'éducation nationale, entre autres, à faire connaître, par exemple, le mobilier, à faire connaître les costumes, à faire connaître les horloges, en fait, tout ce qu'il y a dans le musée. Nous travaillons avec les établissements scolaires, y compris d'ailleurs, même nous cherchons en ce moment à faire connaître la cuisine traditionnelle, toujours en collaboration, en partenariat avec l'éducation nationale. Donc il y a vraiment ce souci de transmission vers les jeunes.
Oui, c'est un chantier école, en fin de compte, en même temps, pour les jeunes qui ont choisi des carrières de métier. Et depuis de nombreuses années, la restauration du mobilier a été confiée justement à des lycées, les horloges, les automates qui animent le musée. Là, on est sur un projet d'installation d'un restaurant pédagogique en partenariat avec le lycée hôtelier de Marseille pour justement cette transmission de la cuisine traditionnelle provençale et méditerranéenne d'ailleurs aussi.
Voilà. Donc plus que jamais, le patrimoine pour vous, c'est un patrimoine qui doit être essentiellement vivant.
Oui, puis ce sont des rencontres littéraires, ce sont des concerts, ce sont des projections, ce sont des conférences évidemment, un cycle de conférences. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses au musée. Il faut aller sur l'espace Pignol, du nom de... Donc on a fait une contraction parce qu'il fallait à un moment donné un peu réduire la terminologie de l'association et du musée. Donc espace... pignol.com, vous avez un site avec tout ce qui s'y fait et tout le monde peut adhérer donc à l'association des amis du musée et recevoir en même temps la newsletter qui permet de recevoir toutes les informations et toutes les activités et manifestations, événements qui s'y déroulent.
Et il y a des événements en particulier autour de Noël, autour de cette fête ?
Alors, on a déjà... organisé plusieurs fois et à la demande, mais en tout cas la dernière c'était le 30 novembre, on organise tout simplement des visites aux chandelles, on se plonge carrément au siècle passé avec une mise en valeur des collections simplement à la lampe à pétrole, alors c'est pas du pétrole, c'est de la chandelle, c'est de la bougie, mais on a la possibilité de visiter ce musée avec simplement un éclairage à l'ancienne, donc à la chandelle. Avec, à la suite de la visite guidée qui est proposée, une dégustation de pompe à l'huile et de vin cuit autour de la grande cheminée dans la grande salle qui est éclairée avec un feu magnifique. Et là, pour le mois de janvier, on va proposer une dégustation toujours de vin cuit et cette fois-ci là, avec les gâteaux des rois, les galettes des rois. Voilà.
Alors pour terminer, au vu de tout ce que nous avons dit, quel est l'élément du Noël provençal qui suscite pour vous, année après année, j'allais dire, toujours autant d'émerveillement, Jean-Pierre Mazet ?
Alors je pense quand même que pour beaucoup de gens, c'est la crèche. Et la crèche qu'on va avoir dans les églises ou la crèche que l'on fait chez soi. Et beaucoup de gens, même qui ne sont pas pratiquants, veulent voir la crèche aussi bien dans les églises. Donc chez eux, ils la font. J'ai même eu, puisque je suis professeur, entre autres, de Provençal, j'ai même eu une élève de confession juive qui faisait la crèche. Alors, elle ne mettait pas l'enfant Jésus et la Sainte Famille, mais elle faisait la crèche provençale quand même chez elle, vous voyez. Je pense que la crèche, c'est ce qui parle encore le plus, le plus aux gens.
Evelyne Brémondi, pour vous ?
Oui, je pense aussi. Oui, pour moi aussi. La crèche, c'est le cœur du sujet. Hein. Je veux dire, on se trompe aujourd'hui avec souvent, malheureusement, Noël pour la plupart. C'est devenu la fête de la bouffe et des cadeaux, comme je disais très vulgairement tout à l'heure. Hein, alors que bon, le central de cette fête, c'est quand même la nativité, la crèche qui symbolise cette nativité avec cet hommage à travers ces figurines qui viennent rendre hommage donc à cette nativité.
Et comme le dit un auditeur,
je pense
Paul,
que c'est vraiment important.
Comme le dit un auditeur, Paul de Bruxelles, Noël, c'est la fête de la simplicité, de la fraternité. Un dernier mot très rapide pour terminer, Jean-Pierre Mazet.
Alors, le fait que ce soit des personnages provençaux, mais on va retrouver des crèches dans toutes les régions du monde, c'est bien le signe que le Christ est venu pour toute l'humanité.
Voilà, merci
pas
beaucoup.
Seulement pour le peuple juif.
Merci voilà. À vous.
Merci Evelyne Brémondi et merci à vous Jean-Pierre Mazet et merci aux équipes de RCF Dialogue à Marseille d'avoir réalisé ce duplex.